La maternité des Lilas, un documentaire de Charlotte Rouault et Benoît Bory. La maternité des Lilas est un hôpital privé à but non lucratif participant au service public depuis 1964. Malgré sa petite taille, cet établissement tient un rôle important dans la santé publique du département fragilisé de Seine-Saint-Denis, en Île-de-France.
Alors, si vous voulez, on va monter au troisième étage.
La particularité de la maternité des Lilas, c'est un hôpital à part entière, mais qui ne fait que de la naissance et de l'orthogénie. C'est-à-dire que depuis sa création en 1964, cet hôpital est uniquement tourné sur les femmes.
Marie-Laure Brival, gynécologue obstétricienne et chef de service de la maternité des Lilas.
À côté des femmes, pour l'accompagnement dans toute cette évolution, soit dans le choix, bien sûr, de mener à terme ou non une grossesse. Donc c'est pour ça que nous avons une activité quasiment équivalente entre naissance et interruption de grossesse. 1700 naissances, 1300 IVG.
La maternité des Lilas a donc été créée par une sœur de mon père, Colette de Charnière,
Françoise Bagneau,
qui a connu le docteur Lamaze,
ancienne puéricultrice à la maternité des Lilas.
Quand elle a accouché de sa fille, enfin, elle a eu beaucoup de problèmes pour avoir des enfants. Elle a eu une césarienne et à la suite de ça, elle a bien connu le docteur Lamaze. Et en son souvenir, elle avait dit qu'elle monterait une clinique pour promouvoir l'accouchement sans douleur en France. Le docteur Lamaze ayant, lui, rapporté cette technique, l'accouchement sans douleur de Russie, et c'est un des premiers qui l'a pratiqué en France.
Il y a toute une équipe qui est tournée vers le respect de la physiologie et la prise en compte des souhaits, des choix des femmes, des couples. Et notre but est de mettre en commun nos deux intelligences, c'est-à-dire de dire, voilà, le couple, la femme arrive avec des souhaits, un savoir que nul autre ne peut avoir, qui sait mieux qu'une femme ce qui se passe de bien ou de mal pour elle. Donc cette écoute de ce que ont à nous dire les femmes est absolument essentielle. Nous allons apporter dans la balance notre savoir-faire, notre expérience l'expérience et le savoir-faire, nous allons apporter cela et mettre tout cela, notre professionnalisme évidemment, et nous allons mettre ça en commun pour cheminer ensemble d'égal à égal dans un dialogue permanent vers cet accomplissement qui est la naissance elle-même. Et donc, de ce fait, nous allons essayer d'offrir à ces couples, à ces femmes, tous les outils nécessaires à la réalisation de leur projet. D'où l'importance des sages-femmes ici à la maternité qui vont s'occuper des grossesses physiologiques et donc de toute la question des consultations, mais aussi, bien évidemment, de la préparation à la naissance. Ce sont ces fameux outils qu'on va donner, offrir aux femmes. Elles vont se les approprier pour être plus fortes face à l'événement qui les attend, plus intelligentes au sens large et noble du terme, c'est-à-dire comprendre ce qui leur arrive et non pas subir de façon passive.
Pas toujours les mêmes soins, sauf que là, comme on dirait un petit volcan, un petit cratère, il faut qu'aller dans le trou après le temps de cratère.
Mais pas sinon, mais il y avait un...
Marilène Benmiloud,
une telle envie,
ancienne directrice de la maternité des Lilas.
De Madame de Charnière, la tante de Françoise, que cette maison soit un accueil formidable pour les mères et les pères déjà à l'époque, les mères et les pères. Le respect de la femme, enfin du couple, pour accueillir le bébé et reconnaître que l'enfant était quand même une personne aussi.
Eh ben, on a des rendez-vous réguliers avec les médecins et les sages-femmes. Et puis, lors des rendez-vous, déjà à ce moment-là, avant même d'avoir son bébé, on est très écoutés. C'est des moments d'écoute et d'échange, en fait. C'est pas un rendez-vous médical X avec un numéro. On se sent vraiment entouré, en fait.
Et on nous laisse le choix par rapport aux méthodes, enfin on nous explique.
Ouais, complètement. On nous laisse vraiment choisir la façon dont on a envie d'accoucher, péridurale ou pas, la position. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Théo. On a tout choisi. Enfin, c'était formidable.
Monsieur Théo.
T'as repris mon vent, c'est bien.
130.
Ah bah
oui, très bien.
Parfait.
C'est bien, mon bébé.
Le papa est très importante aussi, ça c'est clair, parce que par exemple, à la première échographie, j'ai posé juste une question et le médecin m'a sorti un graphique, qui m'a vraiment pris le temps de m'expliquer, parce que le papa a beaucoup de peur aussi, hein, ça c'est sûr. Et donc voilà, on a vraiment des questions où on s'est senti, c'était pas oui, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est non, voilà, on m'a sorti un graphique, on m'a bien expliqué la part des choses, vous inquiétez pas. Donc, voilà, il y avait vraiment une vraie réponse, entre guillemets, on a passé 20 minutes sur ce sujet, enfin voilà, c'était vraiment un bon suivi et très important en tant que père aussi, parce que mine de rien, le papa a beaucoup de peur et ne sait pas forcément comment ça se passe tout ça.
Ben à ce moment-là, je crois que quand les femmes allaient accoucher dans les hôpitaux, il n'était pas question que leur mari soit là. Elles étaient toutes seules, tandis que là, on poussait beaucoup à ce que les maris assistent à l'accouchement et soient là. Et il paraît du reste, quand un père assiste à l'accouchement de son enfant, il y est beaucoup plus attaché.
On a toujours été très... Alors, on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqués là-dessus, en disant, oui, il faut rentrer pour l'hygiène. Il faut rentrer les pères, ils n'ont pas... On n'avait pas les chaussons, tu sais, de bloc. Ça a été très, très critiqué. Et puis, les couples, s'ils ne voulaient pas accoucher, la dame le dos sur la table d'accouchement, mais accroupie ou sur un coussin, comme elle se sentait le mieux pour donner naissance à son bébé, on a toujours accepté ça. Non, on a toujours été très tolérants, très, 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 très à l'écoute des couples. Pas que pour l'enfantement, pour l'interruption aussi de grossesse. Et il faut être dans le respect de tout ça, ne pas juger. Et ça, on nous a appris ça, je pense, Françoise, aussi grâce à votre tante, qui nous a toujours appris à être dans le respect, ne pas juger, accompagner autant qu'on le peut, dans les meilleures conditions, et toujours être en retrait. Pas prendre la place du couple ou du père ou de...
Tu veux me poser quoi comme question?
Non, je te présente mes copines en bas.
Ouais, ça marche. Ça.
C'est les auxiliaires. Alors, tu vas voir une fille, c'est la plus ancienne. Elle est plus ancienne que moi encore. Alors Monique, c'est une ancienne en âge et en temps. Elle est déjà à la retraite, elle. Et ça fait un moment déjà qu'elle est là comme remplaçante.
Vous êtes sur la maternité de Lila depuis quand?
Depuis 2002, voilà. Donc j'ai pris ma retraite, mais j'ai souhaité revenir parce que je m'y plaisais bien et je voulais pas quitter mes bébés, donc voilà, j'y suis revenue.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien ici?
Ah, bah parce que c'est une ambiance familiale, c'est parfait, il n'y a pas de souci. On s'occupe bien des bébés, il y a tout ça tout simplement aussi pour le fait que, voilà, on aime bien les mises au sein, etc. L'approche avec les mamans et les bébés, ce qui n'est pas toujours possible quand il y a une trop, trop grosse activité. Pour l'instant, ça me plaît bon complètement. Voilà, d'où mon retour.
Donc on est un peu loin de l'ambiance de turnover très fort, sans travail de groupe.
Pour l'instant, c'est vraiment un travail d'ensemble, d'équipe, il n'y a pas de souci, avec des très jeunes qui sont arrivés derrière nous, qu'on a formés et qui sont restés, et voilà, avec qui ça marche très très bien. Il n'y a pas de souci, il y a un mélange justement d'âge aussi, de génération, c'est très bien, non, c'est parfait.
Avec... Justement, quand vous avez des jeunes qui arrivent... L'esprit de maternité des villas, c'est...
Elles le prennent, elles
l'ont
appris
quand
oui.
On a été stagiaire
tout
ici,
à fait,
déjà à la base.
Déjà, j'étais stagiaire, donc... Déjà, vous aviez pris la température.
Ouais.
Voilà, donc
ouais.
Ça se passe très bien.
Ouais.
Non,
on
au contraire.
On a été d'abord stagiaire ici, après on a souhaité venir bosser ici. On a tout à peu près commencé par des vacations, et après on n'est jamais reparti. parce qu'on a aimé l'esprit, qu'on avait déjà aimé en étant stagiaire. Et après, on s'est dit, pourquoi partir alors qu'on aime l'esprit d'équipe des Lilas.
On a essayé de leur transmettre des choses aussi. Et puis, bon, puis vous les avez acquises hein, parfaitement. Hein. Avec les trois anciennes, et voilà, ça s'est super bien passé. D'où l'intérêt dans les établissements d'avoir des personnes un peu plus âgées. Il y a des jeunes qui arrivent, et puis voilà, ça fait boule de neige, ça marche très très bien. Hein. Ouais. Pas de problème.
Et du coup, c'est quoi les spécificités d'esprit Lila ?
L'approche des mamans, vraiment, c'est vraiment l'approche des mamans, des bébés, l'allaitement maternel. On les seconde parfaitement. On est toujours là quand elles... On est toujours présent quand elles posent des questions, etc. On les entoure. Il y a toujours une réponse à peu près à toutes les questions. Et c'est vrai qu'on prend du temps. On prend du temps. Mais il faut du temps, mais on le prend. Il n'y a pas de souci.
Moi, après, rajouter autre chose, non, je ne vois pas. Oui, non, prendre le temps, ça, le plus de temps possible. Ouais. On ne se limite pas à 5-10 minutes dans une chambre, on prend le temps que la maman elle a besoin. S'il y a 15 questions, on va répondre aux 15 questions. Si elle a juste besoin de discuter de ses soucis extérieurs, même à la mater, on va le faire, on est là pour ça en fait. Après, c'est notre façon qu'on aime bien aussi de travailler quoi.
Moi j'aime bien faire les accouchements un peu suspendus, enfin avec la barre, moi j'aime bien faire ça. En position assise, elle s'accroche comme ça. Après on a... Bon, on a la baignoire, sachant qu'on fait peu d'accouchements dans l'eau parce qu'on n'a pas beaucoup de place, il faut que les conditions justement soient optimales, hein, que l'accouchement se passe bien, que le bébé soit pas trop gros, pas trop petit, enfin, il y a plein de conditions, quoi. Et puis après, sur le côté, à quatre pattes,
papa,
et puis en dans l'air,
dans l'eau toute seule.
Le bébé va bien quand le debout, ouais, parfait.
Debout, ouais, le papa voilà. Qui réceptionne le bébé.
Ouais. Il y en a qui accouchent aussi à quatre pattes. Ouais. Voilà. Elles font un peu en fonction de ce qu'elles ressentent, voilà. Et ce qui les soulage aussi le plus, hein, ce qui leur convient davantage. Et ça, c'est superbe. Ce que je ne trouvais pas, moi, dans le privé, je suis du privé, et je ne trouvais pas ça du tout.
Si elles arrivent et qu'elles accouchent très vite, sans péridurale, les femmes, elles s'adaptent, elles se mettent dans une position et elles accouchent. Hein. Ça, c'est... Elles font confiance à leur corps et ça marche bien. Quand, après, elles ont des désirs, on essaye, ça marche ou ça marche pas, on change de position. Enfin, tant que le bébé va bien, on n'est pas aux pièces, hein. on peut essayer.
La rentrée bien.
Ben merci beaucoup.
Plein de bonnes choses à vous trois.
Merci, merci. Hein. Merci beaucoup. Et dans son
et
corps.
Puis continuer comme vous faites, hein,
ouais,
c'est très
faut,
très bien.
Il faut. Donc
et
voilà.
Puis, vous reviendrez de toute façon.
Pas de problème, c'est sûr. Hein. Merci. Hein.
Au revoir.
Bon courage. Hein.
Allez, merci. Bonne vie, mon pépère.
Donc j'ai accouché il y a à peu près 8 jours, d'un petit garçon. Donc vraiment, ça s'est très très bien passé. La maternité des Lilas, vraiment, le personnel m'a vraiment touchée. Ils sont très humains, ils s'accompagnent. Franchement, au niveau du choix des mamans, ils le respectent vraiment totalement. Il n'y a pas de pression, on ne se sent pas traité. On a l'impression qu'ils travaillent sans stress, qu'on n'est pas là pour les embêter. À chaque fois qu'on a une question, que ce soit à 2h du matin, à 3h de l'après-midi, ils répondent. Donc c'est parfait. C'est parfait, franchement.
On voit une maman qui pleure dans une chambre comme ce matin, et j'ai vu pour X raisons. Ben, je sais pas, je m'approche d'elle, je lui demande ce qui va pas, je sais pas, et puis je sors une petite vanne rigolote, ça passe bien, puis j'ai changé de chambre parce qu'elle a eu la chance d'avoir une autre chambre. 5 minutes au pied du lit, et ça va mieux après. Pas la porte ouverte comme je vois dans les hôpitaux. Ils ouvrent la porte, ça va pas madame, de loin. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. On entre, on ferme la porte, et on se met à côté de la mère. Là, elle comprend qu'elle a le temps de parler. C'est avoir le temps de parler, même si on n'a que 5 minutes à lui donner. Parce que j'étais en plein boom ce matin.
Je dirais que 90% des gens qui travaillent à la maternité des Lilas, c'est un choix.
Moi, j'ai choisi de venir là. J'ai travaillé ailleurs.
Beaucoup de richesses.
J'ai pu comparer et j'ai choisi de venir là.
Beaucoup de... Finalement, je crois que j'ai été faite pour ça. Beaucoup de soucis, beaucoup d'angoisse, mais en même temps, que du bonheur. Que du bonheur.
Comme c'est pas à but lucratif, donc le chiffre, le nombre de naissances, c'est pas ça, c'est la qualité surtout.
Tous les membres du personnel sont salariés.
Et puis c'est accessible aussi à tous les...
Donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires.
À toutes les familles, enfin, quel que soit leur revenu. avant de travailler ici, j'étais dans un grand hôpital où il y avait de la réanimation pédiatrique, on peut dire l'équivalent de grande usine.
Docteur Zeyer.
Et c'est vrai que la première garde, quand je suis venue ici, j'ai intervenu pour...
pédiatre à la maternité des Lilas.
Pour la réanimation d'un prématuré. J'étais étonnée, c'est-à-dire au départ, dans l'hôpital où je travaillais, on prenait l'enfant, on faisait le soin, on le mettait dans un incubateur, il restait 2 heures et tout ça, il ne voit pas sa mère et tout ça. Et je suis venue ici, j'ai trouvé le nouveau-né était un peu prématuré, c'est vrai, mais il était dans un petit drap, à côté de sa mère, il n'y avait pas de scope, il y avait pas... J'étais au départ, ça m'a angoissée, comment on pouvait faire ça. Et après, en fait, avec le temps, je me suis habituée un petit peu. Et c'est vrai que ce petit bébé qui est né prématuré, qui n'est pas très prématuré, on peut faire les soins rapidement, 5 minutes. On peut le rendre à sa mère, ne pas laisser isoler pendant 2 heures. Et j'ai vu un petit peu la différence au niveau des... C'est-à-dire, pour les parents, ça fait vraiment quelque chose de très bien que d'avoir leur bébé juste à côté d'eux.
C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a...
Emiliano.
On a fait de la grossesse une pathologie.
Anesthésiste c'est-à-dire à la maternité des Lilas.
Il y a tellement de suivi depuis le début de la grossesse que... vraiment, on a, comme la sage-femme, comme Juliette disait tout à l'heure, on a médicalisé énormément la grossesse. Et donc, c'est vrai que les femmes... puissent sentir entre guillemets des malades, voilà, et pas des femmes en santé qui viennent tout simplement accoucher.
Ah oui, c'était hier. Et c'était dur, hein, parce que c'est une césarienne, donc voilà, c'est pas forcément la voie qu'on aurait préférée. Voilà, mais ça a été fait dans de super conditions, ça a été très beau, parce que malgré tout, elle a été réveillée, elle a pu le voir tout de suite, ça a été très, 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 très émouvant. Et puis voilà, et puis toute la réceptivité des gens ici, enfin l'accompagnement, l'écoute, voilà, c'est... toutes les paroles sont assez pesées, assez justes. Voilà, même dans l'urgence, en fait, c'est très calme, c'est très, très posé, très, très conscient des problèmes. Très, voilà, j'en suis ravi.
Et on parle beaucoup de la place du papa aussi.
Complètement. Moi, j'étais complètement à ma place. C'est-à-dire, voilà, pouvoir assister à une césarienne, c'est quand même... c'est pas partout. Voilà, donc dans les hôpitaux, bah, ma femme a eu une césarienne pour Lou aussi. Ma fille, il y a 2 ans, et là où j'étais pas, je pouvais pas être là, quoi, parce que c'était niveau 3, et voilà, très 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 médicalisé, quoi, et puis donc on m'a fait sortir, mais voilà, moi je pense qu'ils ont semé des petites graines un peu dans toutes les maternités de France, les Lilas et les Bluelles et...
Elles font naître leur bébé comme elles veulent et ce ne sont plus des objets, comment dire, de la technique obstétricienne. Elles sont en possession de leur corps et elles dirigent leur naissance comme elles sentent. Si tu accouches, tu as des contractions violentes, tu veux crier, tu cries, tu veux pas crier, tu cries pas, tu veux chanter.
On a quand même fait des émus là.
Des accouchements individualisés où est pris en compte vraiment la maman, le bébé, le papa.
On essaie de le respecter.
Et donc leur laisser le choix.
C'est pas forcément la femme qui fait l'autonomie, la sophrologie, le yoga, la piscine qui accouchera le mieux. L'essentiel, c'est qu'elle comprenne ce qui se passe.
Et sans systématiquement des actes trop médicalisés.
Sortir les femmes de l'objectivation, voilà, dans laquelle une hyper-médicalisation de la médecine les met.
Moi, j'ai pris beaucoup de risques parce que j'étais déjà directrice à l'époque. Et ben, c'est vrai qu'on faisait des avortements clandestins à la maternité des Lilas. Depuis bien avant la loi de Madame Veil. faisait la nuit. D'ailleurs, avec Bernard Fonti, je peux citer son nom, avec, on avait l'anesthésiste et il y a une femme qui arrive en détresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bien que tu l'aides. Sinon, elle va se mettre des aiguilles à tricoter, des queues de persil dans le vagin. Elle va, je ne sais pas quoi faire. Ah oui, moi, cette dame qui est morte. Son mari, tu sais ce qu'il avait fait? Il avait pris des... Tu sais, les fleurs en plastique, là, qui entourent un fil de fer. Il lui avait injecté de l'eau savonneuse. Je ne sais pas comment il avait fait. Oh, quel drame, ça. Ça faisait absolument partie de notre... être à l'écoute des autres. Et des femmes, et des hommes, et des enfants. Et tu peux pas les laisser mourir dans la rue. Ou se faire comme ça, tringler, comme on disait. Tringler par des faiseuses d'anges, les pauvres, elles essayaient... Au moins, elles étaient dans un milieu médical un peu sécurisé. S'il y avait un accident, t'avais un médecin... Enfin, un gynéco-obstétricien, un anesthésiste, on avait un peu de sang, on pouvait, mais si tu fais ça dans une chambre là, au-dessus, au sixième étage, t'as pas l'accompagnement médical. Non, on a pris des risques énormes, énormes, mais je pense qu'on a bien fait. D'ailleurs, maintenant, on est le plus grand centre d'orthogénie de France.
Centre d'orthogénie, donc c'est le centre où il y a on est un centre d'interruption de grossesse.
Karim Sissalareda.
Moi personnellement, je m'occupe donc des consultations de gynéco.
Médecin du centre d'orthogénie de la maternité des Lilas.
Ce qui est les premières consultations, la contraception, la prévention. Nous intervenons dans les collèges aussi pour l'éducation sexuelle. Et puis, donc on a aussi les psychologues qui interviennent en dehors de toute. IVG, c'est-à-dire tout problème psychologique que peuvent rencontrer les jeunes ou les adultes. Hein. Moi, je travaille essentiellement beaucoup avec les jeunes. C'est pour ça que je parle beaucoup avec les jeunes qui peuvent être suivis. Voilà. Il faut vraiment aller... C'est un centre quand même emblématique. C'est emblématique dans ces combats qui ont toujours été... Depuis la création de la maternité, là, on sait que c'est quand même un centre... De référence, quand même, 1300 IVG, c'est pas peu. Dans les luttes, les différentes luttes pour la liberté de la contraception, pour la liberté d'IVG, pour la liberté, les droits de la femme, tout ce qui concerne la femme et toutes les luttes, comme on est les femmes, pour pouvoir arriver à cette liberté d'avorter, de pouvoir décider d'avoir, de ne pas avoir, une grossesse, un enfant ou autre. Quand même, c'est connu, là, vous posez la question, la maternité de Lila, quand même, est emblématique, que ce soit dans le centre d'orthogénie ou dans la maternité. D'ailleurs, on est le seul centre, pratiquement, où il y a la maternité avec le centre d'interruption de grossesse, sachant que c'est très, très rare, mais alors, c'est hyper rare. Les choses que je vois ici, c'est que les femmes qui viennent pour une interruption de grossesse reviennent pour leur maternité et vice-versa.
Ça leur coûtait rien parce qu'on ne demandait pas d'argent. Ben on disait rien du tout, tu parles, on se cachait comme des truands.
Étant donné la vétusté des locaux, l'équipe de la maternité des Lilas s'est mobilisée pour mettre sur pied un projet de reconstruction afin de pouvoir accueillir les familles dans de meilleures conditions. En octobre 2008, l'État s'engage à accompagner cette reconstruction dans le cadre du plan Hôpital 2012. Mais en juin dernier, quelques mois avant le début des travaux, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France suspend officiellement le projet. Un collectif composé de personnel et d'usagers s'est créé afin de faire face à cette situation d'incertitude faite de rumeurs et d'incompréhension.
Bonjour. Lorsque nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème de vétusté des locaux de l'actuelle maternité des Lilas rue du Coq Français.
Daniel Guiraud, maire des Lilas et vice-président du Conseil général de Seine-Saint-Denis.
Nous avons suspendu des projets que nous avions sur un terrain municipal situé avenue Pasteur et nous avons porté ce terrain dans la perspective de la reconstruction de la maternité des Lilas aux Lilas. Ce terrain est propriété de la ville. Les immeubles qui étaient dessus ont été démolis par nos soins, donc ce terrain est totalement maîtrisé. Les permis de construire sont signés, les prêts bancaires ont été obtenus par la maternité des Lilas et la ville des Lilas a garanti ces prêts bancaires. Donc tout est en place pour que la première pierre soit posée et que le chantier démarre immédiatement. La seule raison pour laquelle ça n'a pas démarré, c'est parce qu'il y a eu le gel des autorisations par l'ARS ces dernières semaines.
Les ARH ont été remplacés par les ARS en avril 2010, et c'est cette nouvelle administration qui, sur un projet fini, bouclé, pour une construction qui devait commencer en octobre 2011, a suspendu purement et simplement, sans raison compréhensible, a stoppé le projet de reconstruction. Si bien que nous sommes actuellement toujours dans ces anciens locaux, qui deviennent de plus en plus difficiles en termes d'organisation des soins, et nous sommes en attente d'une réponse. Mais nous ne sommes pas dans une attente passive, nous nous sommes mobilisés en collectif.
Pourquoi est-ce que le projet a été, non pas gelé, mais rediscuté avec la maternité des Lilas ?
François Crémieux, directeur du pôle établissement de santé de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Le projet de la maternité consistait à dire, nous sommes fiers de notre histoire, on est fiers de notre fonctionnement, on est fiers de ce que l'on est, et donc on a comme projet, c'est ce que nous disait l'association qui dirige la maternité, de reconstruire la maternité sur un site isolé, c'est-à-dire sur un site sur lequel il n'y aurait que la maternité des Lilas, aux Lilas, et d'investir avec de l'argent qui venait à la fois d'Hôpital 2012, mais également des investissements qui auraient été faits par la maternité elle-même, par l'association elle-même, pour reconstruire à l'identique, mais dans des locaux neufs, la même structure. Ce qu'a répondu, ou plutôt ce qu'a dit l'agence au moment où on a commencé à regarder le dossier, c'est de dire, ce projet-là nous inquiète, non pas parce qu'il ne faudrait pas soutenir une reconstruction de la maternité des Lilas, pas de débat, il faudra le faire, mais ce projet-là nous inquiète parce que la maternité des Lilas est en train d'envisager son avenir de manière isolée à toute autre structure.
Alors c'est vrai que nous,
Assia Asloun,
dans notre démarche,
gouvernante de la maternité des Lilas,
on dit ce qu'on veut, on veut notre nouvel hôpital, on veut la reconstruction, on veut rester la maternité des Lilas, mais on n'est pas non plus complètement obtus. On sait très bien que la société dans laquelle on vit, il y a des choses sur lesquelles il va falloir se modérer. On en a conscience. On n'est pas complètement buté en disant on veut ça et on veut rien d'autre. Non, tout le monde évolue. Mais nos adversaires, je ne sais pas ce qu'ils veulent et oui, est-ce qu'ils veulent faire de nous surtout.
L'été dernier, le collectif de soutien annonce que l'Agence régionale de santé aurait proposé l'intégration de la maternité à un nouveau pôle privé sur la commune voisine de Bagnolet. Ce complexe regrouperait également les cliniques de la Duisse et Floréal et serait confié à Ramsay Santé, filiale française du groupe Ramsay Healthcare.
Lors d'une réunion tripartite du 8 juillet 2011, où il y avait le cabinet du maire des Lilas, M. Guiraud, vous-même et la maternité des Lilas, vous avez parlé d'un projet qui pourrait donc concerner la maternité des Lilas, des établissements de santé du secteur qui sera en difficulté. Et vous avez cité aussi le nom de Ramsay.
D'abord parce que ce jour-là et à cette réunion-là, nous avons cité, en présence de la maternité des Lilas, l'ensemble des noms de tous ceux qui étaient sur leur territoire de santé et qui aujourd'hui avaient des projets. On a donc parlé de Robert Debré, même s'ils ne sont pas directement sur le territoire de santé. Je crois que nous avons évoqué ce jour-là la question des diaconesses, qui est également une structure qui n'est pas très loin, juste de l'autre côté du périphérique. Effectivement, on a cité le groupe Ramsay. Le groupe Ramsay est un groupe de cliniques d'origine australienne qui avait à l'époque un projet de s'impliquer sur le 93, donc dans le département du 93, et éventuellement de reprendre des structures, des cliniques privées qui étaient en relative difficulté dans le 93. Aujourd'hui, ce projet est pour l'instant pas abouti. Je ne sais pas s'il aboutira. Et notre seul message à l'attention de la maternité a été en aucun cas de leur dire qu'il fallait qu'ils se marient, qu'ils se rapprochent, qu'ils montent un projet. Il n'y a eu aucune insinuation de ce type-là.
À cette réunion, il nous a été très clairement dit, quoi qu'ils en disent, le contraire. Parce que c'est aussi une chose qui nous perturbe énormément et nous fatigue, c'est que c'est le discours changeant. Puisque rien n'est écrit et que tout est dans la parole, il est facile de dire que celui-ci a mal entendu, celui-ci n'a pas dit cela, etc. On est dans ce jeu de dupes depuis le départ. Donc effectivement, les responsables de l'ARS passent leur temps à dire qu'ils n'ont jamais dit qu'ils pensait très sérieusement nous confier à un groupe privé australien qui rachète des maternités et pour en faire des pôles privés, Ramsay Santé. Ça nous a été clairement proposé alors que ça fait 50 ans que nous sommes une institution publique. Donc ça corrobore et ça illustre parfaitement la politique de santé qui est menée en France. Mais le problème, c'est qu'actuellement, ça se joue à nos dépens et nous vivons en direct, jour après jour, la mise en œuvre de cette politique de santé, c'est-à-dire la privatisation du système de soins.
Le groupe Ramsay Healthcare est détenu à 36% par son fondateur, l'Australien Paul Ramsay, et par divers fonds de placement, dont la banque américaine Morgan. Coté en bourse, il s'agit du deuxième groupe du secteur industriel de la santé en Australie. Spécialisé dans le rachat de groupes de cliniques, notamment en France, Ramsay Healthcare a récemment acquis, en partenariat avec le Crédit Agricole, le groupe Proclif qui détient 9 cliniques privées en France. Le système de santé français est populaire et stable, et il existe de bonnes opportunités de croissance sur ce marché. Site internet de Ramsay Healthcare, octobre 2011.
Alors en France, il y a eu deux phases. Une première phase où vous avez eu effectivement des capitaux en provenance en général de compagnies existantes, Suez, Paribas, etc., qui sont les deux grands pôles financiers de France.
Jean-Pierre Escaffre, maître de conférence en sciences de gestion à la Faculté des sciences Rennes 1.
Qui sont un peu investis là-dedans. Et ensuite, ils ont revendu, en général, à des fonds. Mais ça a été très lent, hein, c'est à partir de la fin des années 80, début 90, etc. Mais à partir des années à peu près 93-94, vous avez eu une concentration de cliniques à partir de cliniques existantes qui ont pu, une fois le regroupement fait, comment se positionner en bourse. Et donc, à partir d'à peu près de 96-97... Eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu la valse des achats-ventes, ou ventes-achats plutôt, de cliniques privées, à but lucratif, bien sûr. Et on a vu arriver là les fonds d'investissement, fonds de placement.
Bonjour, la mairie de Bagnolet vous souhaite la bienvenue.
J'avais contacté l'ARS, en l'occurrence le responsable de tout ce qui est établissements médico-sociaux, pas du tout pour la clinique, enfin pour l'évolution des cliniques.
Agnès Mallet-Loncoté, directrice de santé de la mairie de Bagnolet.
Et donc du coup, ils m'ont dit, mais de toute façon, on aimerait discuter aussi avec toi, que tu es la version ARS de l'évolution, de la réflexion, des inquiétudes qu'il peut y avoir. Parce que moi, les versions sont très, très diversifiées par rapport à ce projet-là. Sachant que ça fait longtemps qu'on parle de rapprocher Floréal et la Duis. Et se rajoute donc éventuellement une maternité dans une grosse structure privée.
Et la maternité des Lilas avait été évoquée dans le cadre.
Oui, ouais, tout à fait. Le projet, c'est regrouper Floréal, la Duis et la maternité des Lilas, avec un soutien du maire de Bagnolet à ce projet-là, souhaitant garder une activité privée médico-chirurgical sur le territoire de Bagnolet et de rajouter une maternité pour éviter d'excentrer une maternité très très loin, notamment pour les Bagnoletais.
D'accord. Et Ramsey, ça vous a été confirmé par la...
Par l'ARS.
Ah bon ?
Ouais, par l'ARS. Mais manifestement, il se retire. Il se retire pourquoi ? Parce que la médiatisation qui s'est faite là autour de la problématique, les chocs, enfin, a l'air de les choquer, c'est pas du tout dans leur culture.
Enfin, du moins, nous, personnel de la maternité, il n'y a jamais personne qui est venu en disant « Voilà, vous allez faire partie d'un pôle où on y a vraiment pensé ou... » Ça a pas été... Moi, je te donne mon point de vue en tant que personnel, là, tu vois. Il y a des choses qui se sont faites en dehors dans des instances, qui se sont dites et même écrites. Mais nous, à la maternité, moi, j'ai personne dans une réunion, on est venu dire « Alors voilà, on va construire un grand pôle et puis on va vous mettre dedans, machin. » On n'a pas eu ça. Tu vois, c'est multiples trucs, tu vois. C'est multiples choses que tu entends qui sont des rumeurs sans être vraiment des rumeurs, qui paraissent aussi sur papier, mais et qui, en gros, nous, et voilà ce qui nous mine aussi, c'est d'avoir un million d'informations constamment et jamais quelqu'un qui arrive, qui est représentant, peu importe qui, mais qui représente l'État et qui nous dise « Alors voilà, nous, on a telle proposition à vous faire et machin. » On n'a jamais eu ça. Ce lieu, on l'adore, quoi, tu vois. C'est un lieu, on a grandi ici. Maintenant, on a des jeunes femmes, on a des jeunes sages-femmes qui, elles, ont comme démarche, qui ont choisi de venir travailler ici. Eh bien, là, en ce moment, je me lève le matin, j'ai un peu de mal à venir bosser, quoi. Pourtant, ça fait quand même depuis un moment que je suis ici. Et donc, on a toujours eu cette ferveur, tu vois, ce côté battante, militante, machin. Mais là, en ce moment, c'est vraiment... Très, très dur, quoi. Jamais je n'aurais pensé que j'aurais autant de mal à venir bosser, quoi. Franchement, je crois que le pire de tout, c'était ce matin. Où je me suis dit, mais est-ce que je vais aller bosser ?
C'est très douloureux. Et moi, je pensais, en discutant avec ma collègue Assia, elle me dit, mais... Quand on entendait à la radio, à la télévision, je suis très émue. Quand à parler comme ça, les personnels de France Télécom qui se sont suicidés, il y a eu toute cette vague de suicides. Et tout d'un coup, on est arrivé à se dire, mais on comprend qu'on finisse par se suicider par tant de mal. Enfin bon.
Qu'est-ce que c'est que le management ? C'est d'abord conduire l'incertitude. Si tout était certain, il n'y aurait pas besoin de management. Ça serait algorithmique, mécanique, etc. Si tout était dans l'incertitude complète, il n'y aurait pas d'objectif. Ce serait ingérable. D'accord ? Et donc le management se situe entre les deux. Ça manage la dialectique entre incertitude et certitude. Bon. Justement, pour faire en sorte... désarmer quelqu'un, c'est de le mettre dans l'incertitude. Alors, vous étiez peut-être certain de vous en ce qui concerne votre compétence de travail, puis d'un coup, il y a un gars qui arrive, qui n'est d'ailleurs même pas forcément de votre métier, qui vous dit « Mais ce que vous faites, monsieur, c'est nul. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous posez des questions. Alors, l'un des moyens aussi pour accroître l'incertitude, c'est de dire « Il y a un projet sous roche, mais vous n'avez pas l'information. D'accord ? Comme vous n'avez pas les pouvoirs, vous n'avez plus les pouvoirs pour contrecarrer, eh bien, vous rentrez dans l'incertitude.
C'est le jeu de l'ARS, de toute façon. C'est le moyen qu'ils vont utiliser pour nous retarder jusqu'à nous bloquer du meilleur. Mais de toute façon, nous, on ne peut pas, avec l'activité actuelle, de par nous-mêmes, on sera obligé de bien arrêter. On ne pourra pas travailler dans des conditions pareilles. Les structures sont obsolètes, c'est impossible de continuer à travailler, à faire 1300 IVG, 1700 accouchements dans des conditions pareilles. C'est-à-dire, ils nous mènent jusqu'au point où on ne pourra plus travailler dans des conditions pareilles parce qu'on va mettre les gens, on n'aura pas de sécurité. Donc par nous-mêmes, on sera de notre conscience, on va dire non mais alors stop, on ne pourra pas continuer, on ne peut pas mettre en danger la vie des patientes, rien, là on arrête, c'est nous qui arrêtons. Je pense qu'on nous pousse jusqu'à ce qu'on arrive à ce stade-là pour par nous-mêmes arrêter et dire bon, Ils ont arrêté, c'est pas nous, on n'a pas été, c'est eux-mêmes qui ont fermé.
Je crois que ce qui les met, je dirais, dans l'angoisse, si je puis dire, c'est qu'ils voient ou ils perçoivent qu'ils n'ont pas de futur. Et donc, par conséquent, ils se disent, on se bat tous les jours pour, contre la maladie, pour aider les gens, etc. Et puis, on voit que les moyens se restreignent, qu'on a que le temps nécessaire pour suivre chaque patient se réduit de plus en plus. Et donc, par rapport à leur éthique, éthique qui a été apprise lors de leur formation, dans leurs écoles, qui est très, très prégnante chez eux et chez elles, eh bien, il y a une contradiction énorme. Par rapport à la mission qu'elles se sont donnée en préparant des concours infirmiers et autres, médecins, etc., eh bien, cette mission-là est en train de devenir délétère, quoi. Enfin, de devenir en poudre comme ça. Hein. On le voit au travers de nos enquêtes, parce qu'on a créé des outils justement de ressenti de travail. C'est extraordinaire. En l'espace de quelques années, on est passé du vert au rouge. C'est l'éthique qui actuellement tient le système.
Aujourd'hui, le projet de pôle privé détenu par le groupe australien semble abandonné. Mais un nouveau projet occupe les esprits et inquiète les soignants de la maternité, très attachés à l'accompagnement des femmes dans leur choix de porter à terme ou non une grossesse. Il s'agirait d'une fusion avec le groupe Les Diaconesses Croix-Saint-Simon, hôpital privé à but non lucratif, mais d'origine confessionnelle, où l'avortement n'est pas pratiqué par principe.
Donc on est sur cette réunion qui est quand même extrêmement importante puisque nous sommes, donc on a déjà fait plusieurs réunions, on a déjà mené plusieurs actions dont le point d'orgue a été cette manifestation du 24 septembre qui a été cette réussite. Malheureusement, depuis cette manifestation, on est un petit peu dans un creux dans la mesure où on n'a pas eu de réaction de l'ARS. L'ARS s'étant contentée de nommer un chargé de mission qui doit fournir un rapport de sa mission à 3 mois, c'est-à-dire en décembre. Son projet pour la maternité des Lilas, c'est une fusion-absorption par les diaconesses. Or, la question des diaconesses était déjà à l'ordre du jour en 2004 ici. C'était un autre temps, une autre histoire. Nous n'avions aucun projet et effectivement, il aurait pu se trouver qu'on réfléchisse à ce projet. Maintenant, un autre projet a abouti. C'est ça toute la différence en 2011. On a un projet qui est ficelé et ils nous le refusent. Les deux points qui posent problème avec les diaconesses, parce que c'est très clairement là où il veut nous emmener, c'est l'adossement physique. C'est-à-dire qu'on va dans le 12e, et là, ça me paraît difficile à gérer, mais ils ont toujours ça en tête, ce qu'ils nous proposaient en 2004. L'autre option, c'est construire au Lila, mais une fusion-absorption par le CA des diaconesses. Le problème du conseil d'administration des diaconesses, c'est deux entités, les protestants et les catholiques avec la croix Saint-Simon. L'avortement dans ce CA, c'est non.
Donc je voudrais revenir sur les diaconesses. À mon avis, le 12e arrondissement est déjà surchargé au niveau du nombre de maternités, puisque c'est ça qu'on nous reproche, et que la maternité des diaconesses, dans sa structuration actuellement, c'est une structuration FEAP, et comme tous les établissements FEAP, et on le sait, on est extrêmement fragilisé. Les diaconesses vont déménager d'ici 3 ans dans des nouveaux bâtiments sur la Croix Saint-Simon. Ils sont en grande fragilité, même à l'intérieur, et l'équipe n'est pas très solide. Donc, s'adosser à quelque chose, on vous balade.
Merci de lâcher rien.
Si les membres du collectif sont mobilisés et prévoient de nombreuses actions pour les mois à venir, ils n'en demeurent pas moins inquiets, voire pessimistes. En effet, le temps ne joue pas en la faveur du projet de reconstruction pour lequel 1,6 million d'euros ont déjà été engagés. L'administration a annoncé qu'aucune décision importante ne serait prise avant la remise d'un rapport commandé pour décembre prochain. Or, en mars 2012, la convention engageant le ministère de la Santé à soutenir la reconstruction de la maternité arrive à son terme. Si la situation n'évolue pas d'ici là, l'hôpital risque l'endettement et le non-renouvellement de son autorisation d'activité, et donc la fermeture.
Je pense qu'on est sur le bon chemin. Mais ça n'a pas été faute de lutte, faute de... Mais on est petit, on est minuscule, mais on ne se laissera pas faire et on défendra nos idées. Et je pense qu'on obtiendra gain de cause. Et je pense qu'on aura une réponse vers le 16 décembre.
Vous venez d'écouter La maternité des Lilas, un documentaire de Benoît Bory et Charlotte Rouault, une production Faïdos Sonore, décembre 2011.